France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, en direct du Salon de l'Agriculture ce soir, et nous en sommes bien contents, car l'an dernier, vous le savez, le Salon n'a pas eu lieu pour cause de Covid. Cette année, c'est la guerre en Ukraine qui provoque l'inquiétude, car même si la France est un grand pays agricole, elle importe de nombreux produits, or les prix flambent. Résultat, comme lors de la crise sanitaire, la question de la souveraineté alimentaire est posée. Le président Macron en a d'ailleurs parlé lors de l'inauguration du salon samedi dernier.
La souveraineté agricole, c'est la juste rémunération du travail.
Nourrir les Français et permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail, c'est tout le défi à relever, car dans ce métier, les aléas sont nombreux.
Vous savez, le moindre petit aléa climatique, aujourd'hui, vous vous dites « mince, ça se trouve, je vais pas avoir assez ». Et ça, c'est lourd à porter psychologiquement, d'être toujours dans l'inquiétude, de se dire « mais je vais pas boucler, c'est pas possible ».
Un reportage de Thomas Giraudot à suivre avec cette céréalière de l'Essonne qui garde le moral, ce qui n'est pas le cas de tous les agriculteurs.
Je perds 25 000 euros par mois. Dans 6 mois, je suis plus là. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une maison. Vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. S'il n'y avait pas des enfants, je serais plus là.
Le désespoir d'un éleveur de porc en Bretagne. Et encore, ce témoignage date de fin janvier, avant la flambée actuelle des prix des matières premières. Alors pourquoi une telle dépendance des importations? Comment vivre de son métier? On va en parler avec nos invités jusqu'à 19h. On prolongera la réflexion ensuite au téléphone sonne à partir de 19h20 pour voir quelle réponse apporter à la détresse du monde paysan, quelle prévention contre les suicides qui sont une réalité, et puis surtout quel modèle pour parvenir à vivre durablement et décemment de son travail. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Irène Menahem, Laura Laplot, Magdalena Hervada. Merci à notre réalisateur Fred Milano, à nos standardistes Yael et Dylan, et à toutes les équipes techniques. Arnaud Caillé, Ludovic Asselot à la Maison de la Radio, et ici au Salon de l'Agriculture, Dominique Allard, Clément Vuillet, Thomas Robin et David Abécassis.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Et plusieurs invités autour de cette table au Salon de l'Agriculture. Alors je vous les présente, enfin lui je ne sais même pas s'il y a besoin de le présenter. Bonsoir Édouard Bergeon.
Bonsoir.
Réalisateur du film Au nom de la Terre qui a connu un très grand succès en salle et qui a été diffusé à la télé la semaine dernière sur France 2.
C'est ça.
Gros succès aussi.
3,5 millions de téléspectateurs et 1,7 million pour le débat d'après. On a parlé de solutions et de d'innovation avec des solutions justement et l'agriculture qui, bah, celle de demain. Donc c'est positif, ça veut dire qu'il y a eu un vrai intérêt en fait. Des Français. Voilà. C'est rassurant aussi.
Voilà, il y a beaucoup de messages, on va évidemment y revenir. Marc Dufumier, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur agronome, professeur honoraire à AgroParisTech, président de la Fondation René Dumont. En 2020, vous aviez écrit « De la terre à l'assiette » et là, vous venez de publier aux éditions Utopia « Pour une conscience terriste ». Vous nous expliquerez ce que ça veut dire ?
Oui, volontiers.
Parce que c'est pas aussi évident que ça, hein ? À tout à l'heure. Marie-André Besson, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Co-présidente de l'association Solidarité Paysan. Vous étiez éleveuse.
Oui.
Dans le Jura. Dans aujourd'hui, vous êtes à la retraite.
Oui.
Retraite active.
Retraite active. Très active.
À soutenir les collègues.
À soutenir les collègues, effectivement.
Oui. Qui sont en difficulté.
Voilà. Ouais.
À mes côtés également, Christian Fuseau.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors vous êtes éleveur. Vache laitière, bressuire, voilà. Dans les Deux-Sèvres. Et vous êtes bénévole pour cette association?
On a été accompagné et je suis devenu bénévole depuis que les soucis ont un peu disparu.
Une façon de rendre la monnaie de la pièce.
Hein.
Et puis Thomas Giraudot est avec nous, notre confrère du service économique et social, pour ce reportage qu'on va entendre. Alors, on va commencer par dire un mot du contexte dans lequel se déroule ce salon cette année. L'année dernière, pas de salon, je le disais. Il y a 2 ans, on avait fermé prématurément le vendredi soir pour cause de pandémie. Et là, il y a donc cette guerre en Ukraine qui pose à nouveau la question de la souveraineté alimentaire. Marc Dufumier, moi, j'ai pas tout compris. Je croyais qu'on était un grand pays agricole, qu'on produisait beaucoup de choses. Et là, on apprend qu'on est dépendant, notamment d'importation de blé. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne sont pas aussi calés que vous, nous expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve en difficulté du fait de cette guerre?
Alors, effectivement, nous sommes un grand produit agricole. Nous exportons du blé plutôt que d'en importer. Et parmi les gens qui peuvent penser pouvoir se réjouir
rapprochez-vous bien du
de la hausse des prix du blé, c'est effectivement que le cours des blés augmente et donc on peut espérer une meilleure rémunération. Et notre dépendance sur le blé, c'est pas tant le blé, mais que pour le produire, et notamment quand on a des rendements de 70-90 quintaux à l'hectare, il nous faut employer beaucoup d'engrais azotés de synthèse, c'est-à-dire on appelle ça ammonitrate, sulfate d'ammonium, urée et autres, et c'est très coûteux en énergie fossile. Vous savez que l'usine de Toulouse a explosé, il n'y a plus de gaz de lac, et du coup nos engrais azotés produits en France, ou plutôt importés d'Allemagne, sont très dépendants de gaz naturel russe. Et précisément, la principale menace pour nos agriculteurs, certes ils vont avoir un prix du blé plus élevé, mais des coûts de production considérables, et je pense qu'il n'y a pas de raison de se réjouir. Alors, notre pays agricole est aussi importateur de fruits et légumes, mais on est aussi, et c'est trop souvent oublié, très importateur de ce qu'on appelle protéagineux, donc des protéines végétales. Parfois, vous savez, on dit le cassoulet de Castelnaudary, regardons déjà d'où viennent les haricots, il y a le haricot tarbé, très bien, mais souvent ça peut venir d'Argentine. Donc on est très dépendant de ce qu'on appelle les protéagineux, les légumineuses. Quand c'est pour des ruminants, des vaches, des chèvres, des brebis, on appellera ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier. Quand on parle de porc, puisqu'on parlait des porcs, effectivement là, l'éleveur
ça pose un vrai problème.
A toutes les raisons d'être inquiet, parce qu'il est très dépendant de concentrés dans lesquels il y a des céréales et dont les cours vont être élevés, et des protéagineux, c'est le soja, le tourteau de soja pour des ruminants en provenance des Amériques, hein, Brésil, Argentine, États-Unis. Et ces protéagineux, donc, sont très dépendants. Pour les deux tiers en France, l'Europe, c'est quasiment pour les trois quarts, pourraient être cultivés en France. À la place de vouloir exporter certains surplus bas de gamme, il faudrait savoir qu'il y a des substitutions techniques.
Il y a des solutions.
Il y a des solutions.
On va y revenir, Marc Dufumier, mais encore un mot de cette situation compte tenu de la guerre. Est-ce que certains produits risquent de manquer? Est-ce que, simplement au niveau des produits alimentaires aussi, il risque d'y avoir une pénurie là, pour les consommateurs dans les prochains temps? Je pourrais comprendre qu'au niveau des huiles, par exemple, ça allait poser des problèmes.
Alors pour les huiles, on est très dépendant c'est le tournesol ukrainien. Oui, il ne faut pas exclure qu'on ait quelques difficultés sur les huiles. Mais vous savez, en France, il y a beaucoup d'huile de colza qui sert à produire de l'agrodiesel. Donc si déjà nous utilisons plus l'huile colza pour la salade plutôt que l'agrodiesel, il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions, j'insiste là-dessus.
Mais elles ne seront pas forcément possibles à très court terme.
À voir.
Édouard Bergeon, je vous vois approuver tout ce que dit Marc Dufumier.
Je suis totalement d'accord avec toute l'analyse de Marc Dufumier. Pour prolonger, même si certains peuvent se réjouir que le cours du blé augmente pour les céréaliers, ça veut dire, la traduction, ça veut dire que les coûts pour les éleveurs vont être catastrophique, terrible, parce qu'en fait les importations de la protéine dont on parle des Amériques ou du blé et tout ça, c'est là qu'on n'est pas autosuffisant et c'est encore une fois les éleveurs qui vont faire la variable d'ajustement, là où on en parlera sûrement dans les négociations, les prix du lait, du porc et tout ça ne sont pas garantis. De l'eau de source par exemple, on n'a pas le droit de vendre à perte, on embouteille, on vend pas à perte, c'est interdit. Par contre du lait, on a le droit de vendre à perte, c'est là qu'il y a un problème. En tout cas, il faut que cette loi Egalim 2, elle fonctionne, mais je ne sais pas si c'est prévu.
On va y revenir. Vous parliez du blé, hein, 380 euros la tonne sur le marché européen aujourd'hui. Marc Dufumier, ça c'est du jamais vu, ça?
Oui, c'est du jamais vu. Mais alors c'est du grain français, hein, mais n'empêche que le prix est très élevé et les éleveurs en pâtissent beaucoup. Ils y donnent des concentrés à base de grains énergétiques, le blé, le maïs, et de protéines en provenance importée. Par contre, les deux prix vont s'accroître. Oui, pour les éleveurs, c'est dramatique.
Alors voilà pour le constat par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Christian Fuseau, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes éleveur, est-ce que ce qui se passe en Ukraine vous inquiète directement, pour vous ou pour vos collègues? Est-ce que vous entendez autour de vous des gens qui s'inquiètent très directement de ce qui se passe?
Nous, directement, non, pour l'exploitation, puisque nous, on a choisi de faire des ruminants à l'herbe, mais pour les collègues qui cultivent beaucoup plus, le souci va se poser, nous, dans un premier temps, avec le prix du pétrole qui flambe énormément. Et pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est que toutes les importations vont augmenter de manière exponentielle, liée au coût du transport. Et ça, c'est ce que l'on voit directement sur les exploitations actuellement.
En tout cas, vous avez résolu votre problème de matière première avec l'herbe. Vous dites que c'est une bonne solution, finalement. Hein.
C'est une solution. C'est certainement une des solutions pour éviter d'être complètement dépendant de l'extérieur. Mais ce n'est pas dans l'air du temps encore, de manière générale, pour pour permettre de réorienter, enfin, que la politique agricole soit réorientée dans ce sens-là.
En tout cas, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, les agriculteurs en avaient vraiment pas besoin parce que la situation est déjà compliquée. Il y a déjà les aléas climatiques notamment. C'est toujours difficile, même en dehors des périodes de crise. C'est ce qu'on va voir maintenant avec votre reportage, Thomas Giraudot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes allé à la rencontre d'une céréalière de l'Essonne, une femme qui en veut, on peut dire, qui aime son métier et qui, malgré cela, a du mal à s'en sortir.
Ah oui, à la frontière avec le département du Loiret, le village du Mérévillois. En fait, c'est l'Île-de-France rurale, celle des plaines céréalières. C'est là-bas qu'est installée Florence Gilotin. À 48 ans, cette agricultrice cultive seule une centaine d'hectares de blé, d'avoine, des lentilles, de l'orge. Elle s'est lancée en 2003 et depuis, elle a connu de nombreuses récoltes difficiles.
Tous les ans, il se passe un petit quelque chose qui grignote le rendement, donc qui grignote le revenu. S'il fallait qu'on se rappelle de toutes les misères qui nous arrivent, franchement, ce ne serait pas vivable. Vous savez, le moindre petit aléa climatique, aujourd'hui, vous vous dites « mince, ça se trouve, je ne vais pas avoir assez ». Et ça, c'est lourd à porter psychologiquement, d'être toujours dans l'inquiétude, de se dire « mais je ne vais pas boucler, ce n'est pas possible ».
Ne pas boucler, finir l'année dans le rouge, c'est ce qui lui est notamment arrivé en 2016, la pire de ses récoltes.
Moi, je ne l'ai pas vu venir, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Donc, c'est le manque de luminosité qui fait que la reproduction de la plante ne se réalise pas. Et le champ était magnifique, hein. Mais on prenait les épis et quand on appuyait dessus, ils étaient tout vides.
Vous n'avez pas eu de récolte en 2016, quasiment?
J'ai fait 30 ou 40% de ce que je fais habituellement.
Une récolte minime et des dizaines de milliers d'euros de pertes. L'assurance face aux aléas climatiques, Florence Gilotin ne pouvait pas compter dessus, elle n'en a pas. Trop cher, cela lui coûterait 10% de son chiffre d'affaires annuel, sans compter la franchise. Elle se résout donc à faire un emprunt à la banque et puis...
J'avais un peu d'épargne que j'avais mis de côté pour me faire un complément de retraite. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai vu passer une estimation de ma retraite, j'étais à 600 euros. Mais pour boucher le trou, en 2016, j'étais obligée de liquider ce que j'avais comme épargne, avec environ 30 000 euros. Comment je finance ma retraite? Qu'est-ce que j'aurai à vendre quand je partirai en retraite? Bon, pas les terres, je suis en location. Pas le matériel, il ne vaudra plus rien. Donc là, actuellement, c'est rien. Et ça ne justifie pas, parce qu'on produit quand même une alimentation de très belle qualité. On devrait être remercié avec un salaire décent.
Les bonnes années, Florence Gilotin touche moins que le SMIC. Son exploitation n'est pas très rentable, alors elle cherche à diversifier sa production.
Là, je pense que je vais plutôt m'orienter vers des noisetiers, avec une variété spéciale de noisetiers pour faire de la vente directe, sous ma marque. C'est quand même très intéressant, beaucoup plus rentable que les grandes cultures. Après, ça pose plein de problèmes. Je veux dire, moi, techniquement, je suis pas au point là-dessus. L'investissement est assez élevé. Par contre, ça m'intéresse parce que moi, je pourrais l'installer sur mes toutes petites parcelles. A priori, ce serait cohérent. L'investissement est pas sympa, mais le projet est sympa, ouais.
Et ce projet devrait pouvoir améliorer son revenu dans quelques années si elle se lance. Il faut compter 3 ans avant de cueillir les premières noisettes.
Et d'ici là, Thomas, la crise en Ukraine et l'explosion du prix des matières premières ne vont évidemment pas arranger sa situation.
Oui, on en a parlé, on pourrait penser que ça ira mieux pour elle en voyant le prix du blé flamber sur les marchés. Il a plus que doublé depuis le début des tensions en Ukraine dès l'automne dernier. Mais pour vendre plus cher les céréales, il faut les faire pousser. Et les prix des engrais azotés produits avec du gaz, on en a parlé au début de l'émission, sont eux aussi en train de monter en flèche.
Ils ont tellement flambé que quand le commercial m'a donné le prix de l'engrais, je lui ai dit « Écoutez, vous m'avez donné un prix, mais c'est du complet, là. Et moi, je voulais simplement de l'azote simple, liquide, ce qu'il y a de moins cher, quoi. » Non, non, c'est le prix de l'azote. Donc, ce qui veut dire que mon azote, elle a doublé en 6 mois de temps. Bon, on va y aller tout doucement.
Donc elle va rationner l'épandage des engrais, mais moins de nourriture pour les plantes, ça veut dire moins de rendement. Florence Gilotin s'attend à une petite récolte en 2022.
Merci beaucoup Thomas Giraudot. Marie-André Besson, ça veut dire quoi quand il y a des aléas comme ça? C'est que c'est toujours au bout du bout l'éleveur, l'agriculteur qui doit faire face, qui doit trouver la solution et qui va rogner ses marges, enfin son revenu, c'est ça?
Oui, c'est toujours l'agriculteur qui est la variable d'ajustement en fait. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est lui qui est qui est à l'origine de la chaîne et qui finalement n'a pas son mot à dire sur la rémunération de sa production.
D'après l'INSEE, en 2019, 16% des agriculteurs n'ont eu aucun revenu. Certains en déficit, c'est pire que d'habitude? C'est pire qu'avant ou c'est une tendance?
C'est une tendance qui augmente, effectivement, oui. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont de moins en moins de revenus. Et à cela s'ajoute une grande détresse morale et humaine. Parce que, évidemment, si on est paysan, c'est quand même pour produire et être rémunéré de son travail et faire vivre sa famille.
Quoi. Et vivre de son métier. Vous avez utilisé le mot détresse. Alors, pour bien mesurer la détresse d'une partie de la profession, je voudrais vous faire écouter maintenant ce témoignage recueilli fin janvier par Maxime Glorieux de France Bleu Armorique. Témoignage de Jean-Marc, il est éleveur de porc du côté de Lamballe. C'était donc avant la guerre en Ukraine, mais le prix du blé était déjà en train de grimper et lui de sombrer.
Depuis 2 ans, on bosse. On n'a jamais failli à notre devoir de nourrir la population. Le prix du porc, lui, ne bouge pas. Aujourd'hui, il nous faut de l'argent, il nous faut du cash. Le quoi qu'il en coûte, on l'a fait dans tous les secteurs d'activité. On donne de l'argent partout, sauf à nous. Je perds 25 000 euros par mois. Dans 6 mois, je ne suis plus là. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une maison.
Vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. S'il n'y avait pas des enfants, je ne serais plus là.
Terrible témoignage de ce désespoir, Édouard Bergeon. Ça ne peut pas vous laisser indifférent, là, ce qu'on vient d'entendre.
Non, il y a beaucoup de souffrance dans le milieu agricole. Vous parliez des revenus. Il y a un tiers de la population agricole qui gagne moins de 350 euros par mois. Il y a des drames. Il y a toujours un agriculteur qui se suicide chaque jour. Il y a un système qui est exsangue aussi. La rémunération, c'est ça. Si à un moment donné, il y a une baisse de morale, si Solidarité Paysan a autant de travail, c'est qu'il y a un vrai problème de détresse, mais à la base de rémunération. On sort d'une crise du Covid, là il y a la crise ukrainienne, on parle de souveraineté alimentaire, on en parlait déjà après le Covid, là on va devoir en reparler encore plus. Et c'est essentiel, c'est qu'il va peut-être falloir revoir certains modèles. On parle de troisième révolution agricole. Moi je suis pas venu seul en fait, là... Maintenant.
Vous êtes venu avec une dame.
Oui, je suis venu avec Mathilde, qui est docteur en biologie et qui va nous parler de la vie des sols. On parle là de l'Ukraine, on parle de l'ammonitrate, de l'urée, on parle de tous ces engrais azotés. Ces engrais, ces intrants, on les a utilisés chez moi, mon père était agriculteur, ils ont fait que les rendements ont augmenté, mais ils font que les sols, eh bien, ils perdent de la vie. Ils sont pas morts encore, mais si on veut reprendre la main... Il faut qu'on reprenne la main sur la vie des sols. Je laisse la parole 2 secondes.
Alors, vous allez partager votre micro avec elle.
Mathilde, c'est important ce qu'elle va nous dire.
Elle a un message à faire passer. Rapprochez-vous bien du micro.
Merci beaucoup. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'un sol vivant, 10 grammes de sol vivant, c'est 10 milliards d'individus, de bactéries, de champignons, d'insectes. 10 grammes de sol, c'est plus d'individus que l'intégralité de l'humanité sur la planète. Un sol dégradé, on va tomber à 1000 individus. Donc, c'est catastrophique. Sauf qu'il y a une solution en fait. Tout n'est pas perdu. Il y a une biodiversité certes très affaiblie, mais qui est là, qui attend des jours meilleurs pour se remultiplier. Donc moi je suis Mathilde Clément, effectivement docteur en microbiologie. Je suis responsable de l'innovation, de la recherche et du développement dans une société qui s'appelle Mycophyto. On est membre de la ferme digitale et on est capable aujourd'hui, nous, dans notre société, d'aller faire des échantillons de sol, d'évaluer cette biodiversité, de la réamplifier au sein de nos infrastructures et de la réintégrer sur les parcelles agricoles. Aujourd'hui, cette solution, ça permet une meilleure résilience face aux conditions climatiques qui, on l'a dit, sont changeantes et difficiles. Ça permet de limiter les intrants azotés, phosphatés. Ça permet de limiter la consommation en eau parce que ces champignons vont rentrer en symbiose avec les plantes et on va améliorer la nutrition, la croissance. On va avoir un effet de bioprotection sur ces cultures. Donc voilà, notre solution aujourd'hui, elle est développée. On a attaqué donc le marché maraîchage, viticulture. On est extrêmement présent sur la viticulture. On est présent sur les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et ce que je voudrais aujourd'hui...
Et on sent votre volonté. Hein.
Voilà. Ce que je voudrais aujourd'hui vraiment faire passer comme message, c'est que il n'y a pas une seule solution. Il y a des solutions. Venez nous voir sur le stand de la ferme digitale. Vous verrez des solutions complètement incroyables. Et tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir. Il y a des solutions vraiment très, très belles. Et il y a vraiment une solution pour l'agriculture de demain.
Édouard Bergeon, faut vous approcher du micro à votre...
Pour l'anecdote, des groupes comme Bayer Monsanto viennent les draguer déjà.
C'est un signe qui ne trompe pas.
Mais non, ils ont loupé quelque chose, en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement dépendant de la chimie et des intrants il y a quand même un sujet là. C'était important pour moi qu'on fasse ce petit pas de côté. Je vous remercie qu'on ait pu.
Non, je vous remercie de participer à l'émission en fabriquant un morceau. C'est très sympa.
Cette invitation, parce qu'en fait, cette image et ce discours et ces valeurs-là, elles sont nécessaires. En fait, elles sont essentielles. Redonner de la vie au sol, c'est redonner de la vie au vivant, c'est redonner de la vie à ceux et ceux qui nous nourrissent, en fait.
Et puis c'est sûr.
Espérons que c'est aussi redonner de la vie aux agriculteurs.
C'est ça.
Ça, c'était Marie-Andrée Besson qui faisait ce petit commentaire. Non, mais ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, vous le disiez, Edouard Bergeon, on sort de 2 ans de pandémie. Ça a remis sur la table la question de la souveraineté alimentaire. On a bien vu pendant la pandémie à quel point les circuits courts ont été réhabilités, à quel point les gens voulaient cuisiner, aller chez les producteurs.
C'est une bonne nouvelle.
Chez vous aussi, Christian Fuseau, on est venu vous voir très directement dans votre exploitation.
Oui, on est venu nous voir au moment du confinement. Il n'y a pas eu de soucis. Les gens ont senti le besoin d'avoir une proximité de production agricole pour pouvoir se nourrir localement et d'identifier aussi le producteur. Le souci, c'est que depuis le déconfinement, on n'a plus cet engouement, puisqu'il y a tout...
C'est retombé, le monde d'avant est revenu,
Le monde d'avant est un peu revenu. Il y a certes tout le phénomène de confinement qui a provoqué certainement dans la tête des gens un souci d'évasion et d'aller voir ailleurs. Mais il y a aussi un problème de pouvoir d'achat avec le coût de l'énergie qui impacte fortement les revenus de la majorité des gens. Donc, je pense que...
Faut pas se désespérer.
Non, faut pas se désespérer. Il y a matière à trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre de son métier décemment. Mais il faut que, politiquement, on veuille le faire. Et quand on voit les gens qui sont qui disent on peut pas faire autrement avec notre engrais et tout parce que l'engrais coûte cher, mais il faut rééduquer et commencer par l'enseignement agricole aussi, c'est-à-dire qu'il faut rééduquer les gens à travailler autrement. Il y a déjà plein de personnes qui le font. Nous, ça fait 25 ans qu'on travaille dans des groupes où on s'est complètement coupé de toute
De la dépendance à ces produits.
De la dépendance à ces produits et de tous les groupes de développement dits industriels pour pouvoir permettre de vivre de notre métier et d'être indépendant intellectuellement aussi sur nos exploitations.
Marc Dufumier, sur ce qu'il disait à propos de la formation et de l'éducation, c'est important de faire passer ce message-là aussi ?
Oui, je partage.
Il y a encore des idées reçues, y compris dans la profession ?
Non, mais beaucoup d'idées reçues. Beaucoup de gens vous diront, améliorer un rendement, c'est toujours l'accroître. On oublie qu'éventuellement, accroître un revenu, c'est pas tant accroître le rendement, mais que diminuer les coûts. Notre agriculture dite productive, elle est hautement destructive. On détruit les engrais, on détruit les pesticides, on brûle du carburant, on use les tracteurs. En fait, c'est la différence entre les deux, ce qu'on appelle la valeur ajoutée en économie, et c'est de là que vient le revenu de l'agriculteur. Donc on pourrait, en diminuant des rendements de blé, puisqu'on exporte du blé, diminuer encore davantage les coûts et libérer des terrains pour faire des cultures que nous importons, notamment les fameuses les fameuses légumineuses qui nous permettent de fabriquer des protéines sans recours aux engrais azotés de synthèse. Vous savez que l'azote, il est dans l'air. Et on peut très bien fabriquer des protéines avec cet azote de l'air. Il y a des plantes, des microbes qui les aident à faire ça, intercepter l'azote de l'air, fabriquer la protéine, que ce soit pour l'alimentation humaine, les lentilles, j'entendais tout à l'heure, les haricots, les petits pois, que ce soit les ruminants, les vaisses, les lotiers, les sainfoins, les luzernes, ou que ce soit pour nous, y compris, j'entendais tout à l'heure dans la diversification, parce que c'est important ce que disait la productrice de l'Essonne, l'idée qu'il faille diversifier, ne pas dépendre que d'une seule culture, parce que l'autre problème aussi, c'est qu'avec le réchauffement climatique, en fait un dérèglement climatique, on nous annonce une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes. Donc mettre des légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements, allonger les durées des rotations, diversifier nos assolements, ça ne fait que du bien. Et en même temps, vous découvrirez qu'effectivement, les champignons, les bactéries du sol vont être ressuscitées. Et puis, vous savez, la biodiversité, c'est aussi de ne pas porter atteinte aux pollinisateurs. C'est peut-être aussi d'avoir encore des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons et nous éviter tous ces produits en pesticides. Donc, diminuer les coûts de tout ça, on connaît déjà. Et c'est très important de signaler, ça vient d'être là, il y a déjà des agriculteurs qui le font. C'est scientifiquement fondé de faire l'usage le plus intensif de l'énergie solaire pour fabriquer d'énergie alimentaire, du carbone, du gaz carbonique pour fabriquer des glucides, des lipides, séquestrer du carbone carbone dans l'humus des sols, l'azote de l'air pour fabriquer des protéines, et puis des éléments minéraux qu'on va aller chercher en sous-sol, parce qu'il y aura des champignons mycorhiziens, j'entendais la biologie des sols, dans le sous-sol, pour aller les restituer en surface. Mais on ne manque pas de solutions, il y a déjà des gens qui font...
On n'a pas de pétrole et on a des idées à vous entendre, ça c'est clair, oui.
La révolution est en cours déjà. Ça c'est l'innovation, c'est pas un gros mot l'innovation. L'innovation c'est plus d'agronomie, comme le dit Marc Dufumier. C'est ça en fait, c'est de la technique, mais pour qu'il y ait moins de chimie, qu'il y ait une agriculture plus durable. Mais c'est déjà en cours. Maintenant, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique pour aller plus loin. Parce que, en vrai, c'est l'agriculteur. Si Solidarité Paysan est là aujourd'hui, c'est que l'agriculteur, c'est la variable d'ajustement. On sait faire tout ça, mais il y a toute une économie aussi qui vit tout ça.
Encore une petite question, Marc Dufumier, sur la souveraineté alimentaire. Et sur, est-ce que la France pourrait être autonome pour se nourrir ou pas ?
Totalement. C'est parfaitement possible. Avec 1,8 million d'hectares de protéines végétales, on exporterait sans doute moins de blé, ça c'est clair, mais nous importerons moins de protéagineux.
On peut tout
faire.
Sur
les fruits et légumes, donc il est parfaitement possible de faire, d'avoir autosuffisant. Notre balance commerciale extérieure est excédentaire parce qu'il y a des vins, des fromages, des spiritueux. C'est des fromages d'ailleurs d'appellation d'origine protégée. C'est pas la poudre de lait, c'est pas les poulets bas de gamme de moins de 40 jours, c'est pas le blé à 90 quintaux qui nous enrichit. C'est les produits à haute valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée par l'agriculteur. Son travail doit être correctement rémunéré, puisque c'est artisanal, par la qualité du produit, ça c'est le label bio. Mais on peut aussi rémunérer nos agriculteurs pour les services environnementaux, quand ils séquestrent du carbone, quand ils nous évitent des émissions de protoxyde d'azote, quand ils nous entretiennent notre santé sans pesticides. Qu'on les rémunère pour les services d'intérêt général. Voilà, c'est la rémunération. Mais pas seulement la qualité du produit. Une agriculture biologique qui serait réservée qu'à des bourgeois bohèmes, dont le pouvoir d'achat, c'est suffisant. Où il faut rémunérer, il est logique que le contribuable paye, c'est des subventions que nous payons déjà, mais désormais ce sera une rémunération pour service environnemental. Des paysans droits dans leurs bottes, s'il vous plaît.
Il faudrait combien de temps pour qu'on fasse une telle transition dans un monde idéal ?
Il faut commencer dès maintenant, mais honnêtement, il y a 30 ans, on aurait mis des taxes sur les engrais azotés de synthèse. On ne serait pas sous cette dépendance aujourd'hui. Et le malus de la taxe sur les engrais azotés de synthèse, on l'aurait utilisé pour rémunérer les légumineuses. Nous aurions déjà des légumineuses dans nos champs, nous n'aurions pas cette dépendance à l'égard de l'énergie et nous ne serions pas aussi gravement affectés parce qu'il est en train d'arriver en Russie et en Ukraine. Il faut être très clair. Donc il faut anticiper, mais oui, il y a urgence de, par une politique des prix, prix rémunérateur pour ce qui est conforme à l'intérêt général, dissuasif pour ce qui est contraire à l'intérêt général, un peu comme à l'époque Pisani, c'était une politique des prix. Mais à l'époque, ce qui était stratégique, c'était les céréales, le lait, etc. Aujourd'hui, c'est les protéines végétales qui doivent être rémunérables, correctement rémunérées.
Voilà, et ça devrait faire l'objet d'un grand débat public, sans doute. Alors, on va poursuivre la réflexion, mais on va d'abord passer à l'actualité de la semaine, vue justement du Salon de l'Agriculture, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Fred Milano. Le Salon de l'Agriculture, rendez-vous incontournable pour les politiques, surtout à moins de 6 semaines de la présidentielle, quasiment 5 semaines maintenant. Le président Macron, qui s'est enfin déclaré candidat dans la presse régionale, était sur place samedi dernier. On commence par là.
La guerre revient en Europe et nous nous voyons aujourd'hui dans un contexte inédit, grave et historique.
Inauguration express et tout en sobriété pour le Salon de l'Agriculture 2022, le salon des retrouvailles après une année blanche pour cause de pandémie. Cette fois, c'est la guerre en Ukraine qui inquiète les agriculteurs.
Je pense que le moral pour tout le monde est en berne parce que avec ce qui se passe en Ukraine, là tout flambe, tout explose, c'était déjà compliqué.
Certains produits d'importation risquent de manquer, d'autres sont d'ores et déjà inabordables. Les éleveurs n'avaient pas besoin de ça.
Il y a un chiffre qui a été donné, c'est que 30% des producteurs de porc mettraient la clé sous la porte d'ici le mois de juin si la situation restait telle qu'elle.
Alors Emmanuel Macron promet un plan de résilience.
Cette guerre durera. Nous serons là, Français et Européens, pour accompagner nos agriculteurs.
Mais l'État ne peut pas tout.
Le premier soutien, c'est aussi dire aux consommateurs, faites un effort de 2 centimes par barquette de jambon, parce que vous allez ainsi soutenir les producteurs français.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Vous savez, du temps de la guerre de 39-45, certains disaient, soutenez nos soldats, plantez des pommes de terre.
Sans aller jusque-là, les candidats à la présidentielle promettent de soutenir les agriculteurs, à commencer par Anne Hidalgo.
Très loin de l'agri-bashing, il nous faut soutenir nos agriculteurs.
Valérie Pécresse n'est pas en reste.
Moi, je crois beaucoup à la revitalisation des zones rurales.
Yannick Jadot non plus.
Un changement de modèle, ça se fait pas d'un claquement de doigts.
Quant à Fabien Roussel, il s'affiche plus carnivore que jamais, mais il veut de la viande française.
52% de la viande mangée en France, elle est issue de l'importation.
Patriotisme jusque dans l'assiette pour Marine Le Pen aussi, mais attention à ne pas trop titiller les taureaux.
Ils sont vifs, hein ? Ah, ils aiment pas qu'on leur touche la tête. Faut me le dire avant.
Les autres, c'était rigolo. Il y a quelqu'un qui peut nous sauver.
Popularité intacte pour celle qui a connu tant de défections ces derniers temps.
Marine, c'est plus modéré, c'est plus réfléchi, elle a plus d'expérience.
La mode Zemmour n'est visiblement pas passée par là.
Je veux pas mettre un homme comme ça au gouvernement. Ouais, ça ferait une guerre, à tous les coups. Hein.
Mais le plus populaire de tous, c'est lui.
Je veux lancer campagne de France, grande cause nationale.
Jean Lassalle, qui n'est pas du tout un petit candidat porte de Versailles.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va bien. Vous êtes un grand.
Ça, c'est vrai.
1m90 sous la toise et toujours prêt à pousser la chansonnette.
Oui, ma chérie.
Faire des photos avec vous.
Mais bien sûr.
Dans
un
coin perdu de montagne.
Jolie en plus.
Elle, c'est Neige, la vache égérie de ce salon 2022.
Elle est née en plein été, donc il n'y avait pas de neige, bien évidemment, mais elle est née sur une piste de ski, donc nous l'avons appelée Neige.
Ça fait une sortie, hein, ça fait du bien aujourd'hui d'être là, ça c'est sûr.
Ah, le plaisir de flâner dans les allées du salon.
On est des bons mangeurs, c'est tous les produits régionaux qui nous intéressent aussi, de goûter un peu partout.
À condition d'avoir le temps.
Je sais tout le travail qu'il y a derrière.
Eh bien, merci, c'est gentil.
Il faut qu'on y aille, monsieur le président. Messieurs, je suis désolé, il faut qu'on y aille.
Et bon courage pour salon.
Et encore un grand merci à Fred Milano. Une semaine en France, toujours en direct du Salon de l'Agriculture avec Marc Dufumier, ingénieur agronome, Christian Fuseau, éleveur dans les Deux-Sèvres, Marie-Andrée Besson, coprésidente de l'association Solidarité Paysan, et Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la Terre. Je ne sais pas si je vous sentais réagir à côté de moi, Christian Fuseau, en entendant le défilé des politiques ici. Je me trompe.
Oui,
pas l'endroit où on débat vraiment.
Non, pas vraiment. Non, je reste très sceptique sur la volonté des politiques. Quand on voit la dépendance des politiques françaises qui dépendent complètement de la politique européenne, et la volonté européenne est quand même liée fortement au lobby agrochimique. Donc, il n'y a pas. Enfin, va falloir vraiment quelqu'un de très très fort au niveau de l'État français pour arriver à réorienter cette politique, et pourtant c'est nécessaire et il y a possibilité de le faire.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, disait qu'il ne faut pas tout attendre non plus du monde agricole. Elle lançait un appel aux consommateurs. Est-ce que c'est une vraie question ? Est-ce qu'on a notre part de responsabilité, Édouard Bergeon ?
Complètement. Le consommateur, le fameux, on vote 3 fois par jour.
C'est ce que vous dites dans votre livre, notamment.
Dans mon livre, et puis sur ma chaîne télé que j'ai lancée, qui s'appelle Au nom de la Terre TV, qui est un Netflix du monde agricole, rien que ça, avec des documentaires pour mieux comprendre celles et ceux qui nous nourrissent, notre assiette, sur ce qu'on mange. Donc sur l'environnement, puisque tout est lié, et donc la ruralité, puisqu'on voit, voilà, c'est de la connaissance. La vertu, elle est, il faut que l'éducation du consommateur, mais l'éducation des enfants, ça passera par là. C'est comme ça aussi qu'on changera de modèle. C'est pour ça que je lance ce média. Et oui, c'est pour ça que nous on peut avoir, tout le monde veut manger bio, mais le bio, on voit que ça fait pchit là. Pourquoi ? Parce que au moment de l'acte d'achat, en fait, on fait pas ce qu'on dit. En fait, il y a 10 millions de pauvres en France. Il y a une vraie question de pouvoir d'achat. Faut pas le négliger. Le bio, c'est cher. Et on voit que ce qui marche le mieux, c'est le local, le circuit court. Oui, il y a 10 millions de pauvres en France. Et en tout cas,
oui, Christian Fuseau est tout à fait,
tous, on peut
d'accord avec ce
tous ceux qui le peuvent, peuvent mettre un petit peu plus d'argent, quelques centimes en plus sur chaque produit. C'est quelques euros de plus chaque mois. Et en tout cas, ça permet au moins de rémunérer au juste prix. Les producteurs qui sont en circuit plus court, sur un marché, sur un magasin fermier, et même aujourd'hui dans la grande distribution, qui n'a pas le choix de s'y mettre. Et en tout cas, si le consommateur fait aussi le choix du français, comme le disait Marc Dufumier, et puis du local, et des éleveurs et des céréaliers, et de ceux qui produisent autour de chez nous, même dans un supermarché, ils feront bouger les choses à leur petite échelle. Alors oui, on a une pliure du temps là. C'est tout, il y a tout en même temps là. Mais voilà, moi je reste optimiste parce que il y a la moitié des exploitations qu'il va falloir reprendre d'ici 5 à 10 ans. Et il y a un enjeu considérable.
Encore un mot sur le consommateur. Je vous voyais réagir, Marie-Andrée Besson. Le consommateur a sa part de responsabilité. Il y a des initiatives. Hein, il y a celle de C'est qui le patron, de Nicolas Chabanne. C'est important de s'adresser aux consommateurs, surtout en ce moment où il y a une volonté aussi de la part du consommateur d'aider.
Oui, je pense qu'effectivement, d'une part, il y a une volonté de la part du consommateur, que c'est important parce que le consommateur fera effectivement, enfin, a un acte à poser, mais on peut quand même pas occulter le fait qu'il y aura besoin d'une réelle volonté politique si on veut qu'effectivement tout le monde ait le droit, et parce que c'est un droit pour moi, d'avoir une alimentation de qualité.
Et ça, on nous annonce un plan de résilience. Hein.
Oui, mais ça serait dramatique que ce plan de résilience, il continue à favoriser le développement d'une agriculture industrielle qui produit de la nourriture à bas prix. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a des consommateurs qui auront la possibilité d'avoir une nourriture de qualité et d'autres consommateurs qui n'auront pas la possibilité d'accéder à une nourriture de qualité. Et il me semble quand même que l'alimentation est un droit et que tout citoyen a droit à une nourriture, une alimentation de qualité. Donc, effectivement, le consommateur a un rôle important, mais il faut vraiment une réelle volonté politique pour changer ce mode de production et d'alimentation derrière.
Marc Dufumier, le plan de résilience.
Oui, ben en tout cas, les consommateurs ont un rôle, hein, parce que la consommation de produits bio n'a pas cessé d'augmenter jusque l'an dernier.
Et alors, qu'est-ce qui se passe, justement?
Et les grandes et moyennes surfaces commençaient à mettre des produits labellisés bio en tête de gondole. Donc, c'est clair que la somme de nos comportements individuels comme consommateurs a déjà un effet macroéconomique. Au moment où on défendait encore des filières bas de gamme, des poulets de moins de 40 jours, je veux dire, on était en train d'importer de plus en plus de produits bio. Alors, aujourd'hui, effectivement...
C'est quoi le problème? C'est les prix?
L'offre commence.
C'est ça.
Alors, c'est les prix parce qu'effectivement, les grandes et moyennes surfaces nous mettent en concurrence avec, y compris parfois, des produits bio. Si vous avez une agriculture biologique en Allemagne, c'est peut-être des travailleurs turcs sous-payés. Ou si vous êtes en Espagne, c'est des travailleurs équatoriens sous-payés. Donc, effectivement, on est obligé aujourd'hui, vous avez des gens qui se demandent à être labellisés bio et équitables. Heureusement, on peut labelliser aujourd'hui des produits équitables, mais ça devient même nécessaire pour des produits bio, pour que quand il y a un effondrement des cours parce qu'on importerait trop de produits faits par des gens sous-payés ailleurs, ben les gens aient un revenu minimum garanti et une prime de développement. Vous savez, le commerce équitable, qu'on commence à rémunérer les gens, un prix plancher minimum et une prime de développement à leur organisation coopérative, ils sont pas idiots, hein. Ils mettent en place avec cette prime les systèmes de production les plus à même de trouver un marché gustatif, donc local, une viande, on parlait de bonne viande, riche en oméga 3, un lait riche en oméga 3 à travers de circuits courts. Donc oui, il faut impérativement encourager la production bio et équitable, mais rémunérer les services environnementaux, pas l'assistanat. J'entendais certains candidats, c'était du paternalisme. Hein. Non, c'est pas dans un claquement de doigts, ça c'est vrai par contre.
Le bio, Christian Fuseau, c'est faisable?
Oui, c'est faisable. Nous, ça fait 10 ans que nous sommes en production bio. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le développement de la bio. Le développement de la bio, comme c'était les gens achetaient de plus en plus, les consommateurs étaient de plus en plus intéressés par la bio, les grandes distributions s'y est mis et s'est gavé avec des marges qui étaient supérieures à tout ce qui était en produits conventionnels parce que c'était porteur. Et puis comme la grande distribution, ce ne sont pas des philanthropes et c'est ce qui a fait aussi que le bio a eu un différentiel de prix aussi important. Et l'autre conséquence aussi sur le développement de la bio, c'est-à-dire qu'on a industrialisé la bio.
Oui.
Au lieu de partir sur des exploitations qui partent, qui travaillent de leurs produits et de leur de ce qu'ils fabriquent sur leur exploitation, on a adapté le système industriel à la bio. C'est-à-dire qu'on a été faire des volailles bio, surtout en volaille et en porc, en adaptant exactement le même modèle qui est en train de souffrir actuellement en Bretagne, le modèle industriel porc breton. On a fait exactement la même chose. Et résultat des courses, forcément, qu'actuellement, eh bien, on a ce souci en bio. Mais par contre, je rejoins tout à fait ce que disait Édouard Bergeon, c'est-à-dire que le fait qu'il y a une grosse partie de la population qui soit pauvre en France, eh bien, ils ne peuvent pas accéder à une alimentation de qualité.
Marc Dufumier, comment on résout le problème pour éviter... Ah, une petite annonce au salon qui va fermer ses portes, je ne sais pas si vous l'entendez. Nous, on reste là, hein, rassurez-vous. Comment on fait pression sur la grande distribution pour que le bio reste accessible?
Non, alors, les lois Egalim, malheureusement, hein, je suis désolé, on dit qu'on va garantir un prix, Mais en fait, à partir du moment où on met nos agriculteurs en concurrence avec d'autres agriculteurs à l'étranger, c'est de la farce. Je vous le dis tout de suite. Déjà, certains grandes distributions ont déjà dit, si vous nous imposez des prix garantis trop élevés, nous, on va importer davantage. Donc, l'urgence, elle est quand même aujourd'hui, et ça, il faudrait que les ministres de l'Agriculture en prennent conscience, c'est ce changement radical de notre agriculture, c'est la diversité et la diminution des coûts de production à l'égard de tout ce que l'on importe. Et les solutions existent. La première chose, j'entendais parler d'herbage, je veux dire, pourquoi des ruminants, des brebis, des chèvres et des vaches devraient se nourrir de grains et non pas d'herbe, quoi. Mais on peut produire de l'herbe dans la plupart de nos régions et des légumineuses. Donc c'est ça qui va diminuer les coûts, c'est ça qui va sauver notre agriculture.
Pour une conscience terriste, ça c'est votre dernier livre, Marc Dufumier. Et dans ce livre, vous insistez sur une chose, sur l'éducation environnementale. Vous rejoignez complètement Édouard Bergeon sur le fait que c'est absolument indispensable de découvrir le monde paysan, de savoir de quoi on parle. Édouard Bergeon, vous le faites à travers un livre, à travers votre chaîne.
C'est ça, à travers Au nom de la Terre TV, et là je le vois, là, vraiment ce qui se passe est dingue sur ce salon. Il y a vraiment des initiatives incroyables, comme à la ferme digitale, comme on l'a entendu avec Mathilde, là, qui est là pour les sols avec Mycophyto. Cette mission éducative, elle est essentielle, c'est pour ça que je m'y attelle, et vraiment il y a un tel... Mon film a fait 2 millions d'entrées, il a fait seulement 115 000 entrées à Paris. Il y a un énorme fossé entre les centres et la ruralité. Et on avait tous un grand-père, un oncle qui avait une ferme, et on avait tous ce lien à la terre avant. On l'a perdu, mais parce que la société a évolué comme ça. Mais on se doit de retisser ces liens-là. En tout cas, moi, je m'évertue à faire ça. Et je rejoins Marc Dufumier sur... C'est les importations, à un moment donné, qui tuent notre agriculture. Parce que on n'a pas les mêmes normes. En France, il faut rappeler qu'on a un pays où les normes sont les plus... drastique du monde, avec une des agricultures les plus durables du monde. Et manger bio, déjà, c'est manger français. Ça n'a pas de sens, le bio qui vient de l'étranger. Il roule, il est sur la route.
Édouard Bergeon, on va vous retrouver tout à l'heure. On va saluer Marc Dufumier qui va nous quitter, donc pour une conscience terriste fondamentale, effectivement, de prendre conscience de tout ça, à un moment où les gens, justement, réclament ce genre de solution, d'autant que c'est ce qui va permettre au monde agricole de vivre et de vivre dignement, parce que c'est le sujet du téléphone sonne tout à l'heure. On va évidemment en parler, mais tout d'abord, la pub.